Et c'est avec plaisir que nous ouvrons à nouveau nos Bibles. Et cette fois-ci, c'est dans la première épître de Jean. 1 Jean 2, 12 à 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'ici, cette première lecture. Une deuxième lecture sera dans l'Évangile selon Jean. Jean 3. Nous lirons là les textes les plus connus de la Bible, donc à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Et nous allons lire un troisième texte dans les psaumes. Psaume 73, et nous lirons le verset 25. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, nous ne pouvons pas avoir notre nez hors de l'eau en même temps. Et nous voulons ce matin avoir l'accès à l'air libre pour respirer l'oxygène qui nous fait vivre. Et l'oxygène qui nous fait vivre et comprendre la parole, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes dépendants de lui, donc mettons notre nez à l'air libre et non pas dans l'eau du monde. Aujourd'hui, nous reprenons la série de prédications sur 1 Jean pour découvrir, puisque nous allons petit à petit dans ce livre, découvrir qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, ici, à Peseux. Le but de l'épître de 1 Jean nous est donné dans 1 Jean 5, 13, nous le connaissons maintenant. Il est écrit « Cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le but de cette épître est de rassurer les croyants afin qu'ils sachent qu'ils ont la vie éternelle. Et plusieurs tests de foi sont proposés par Jean. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il veut aussi rassurer après certains tests pour ensuite nous engager dans le progrès et nous mettre face à un choix important. Donc le titre de cette prédication, c'est « Rassurer et encourager au progrès, n'aimons pas le monde ». Le premier point, rassurer, encourager au progrès, nous permettra d'étudier ces versets 2 à 14. Je vous invite d'ailleurs à vos Bibles ouvertes dans 1 Jean 2. Et nous étudions maintenant dans ce premier point, particulièrement les versets 12 à 14 que je vais relire pour que nous les ayons bien en tête. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. L'apôtre Jean, poussé par le Saint-Esprit, parle ici à ses destinataires avec affection. Il cherche à leur montrer qu'il pense à eux pendant qu'il leur écrivait et qu'il penserait à eux pendant qu'il le lirait. Voilà pourquoi il dit « Je vous écris », donc là il pense à eux pendant qu'il écrit, et « Je vous ai écrit », il pense à eux lorsqu'ils sont en train de le lire. Et au lieu de répéter à plusieurs reprises « Je vous écris chrétien », il utilisera quatre termes différents pour parler aux chrétiens ayant en vue le progrès de chacun. Il ne s'agit pas ici de quatre catégories de personnes, mais plutôt des étapes, des situations de vie que tout chrétien rencontre. Et la première étape est décrite par deux termes, qui sont traduits ici, donc au verset 12 par « petits-enfants » et au verset 13 ou 14, selon les traductions, « jeunes enfants ». Ces deux termes différents dans l'original, mais en fait qui nous indiquent la même notion. En fait, tous ceux que l'on appelle croyants ou chrétiens, selon la Bible, sont nés de nouveau, sont des enfants spirituels. Et ce qui est dit des enfants concerne donc tous les chrétiens. Ce qui est dit des enfants dans ce texte concerne tous les chrétiens. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ou encore, vous avez connu le Père. Le Saint-Esprit, par Jean, veut que ses auditeurs soient rassurés et encouragés. Si vous êtes nés, vos péchés vous sont pardonnés. Je parle d'une naissance spirituelle, évidemment. Si vous êtes nés, vos péchés sont pardonnés et vous connaissez votre géniteur. Si vous êtes nés, vos péchés sont pardonnés et vous connaissez votre géniteur. Comme un enfant qui vit à les voies respiratoires libérées, et il sait qui est son papa. Vous savez, après avoir entendu parler du test moral et du test social au début de l'épître de Jean, certains chrétiens pouvaient peut-être douter. Se dire, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Au premier test, où il disait, à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Et certains, conscients de leur faiblesse, se demandaient s'ils étaient sauvés sans suivre parfaitement les commandements. Ou encore, les mêmes ou d'autres, au test qui disait « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. » Certains, conscients de leur faiblesse, se demandaient s'ils étaient sauvés sans aimer parfaitement tous leurs frères et sœurs. Et Jean les rassure ici. Il leur dit « Vos péchés sont pardonnés. » Et pas seulement ceux du passé, mais aussi ceux que vous confessez aujourd'hui et que vous confesserez demain. Et vous savez vers qui aller pour recevoir ce dont vous avez besoin. Tous les chrétiens sont des enfants spirituels. Ils sont donc au bénéfice du pardon de Christ. Et tous les chrétiens sont aussi appelés au progrès. Et Jean, pour manifester son affection aux gens qui ont déjà progressé, les appelle « jeunes gens » et père. Mais cela concerne, en fait, tous les chrétiens, comme nous le verrons, mais en cheminement, évidemment. Parce que tous les chrétiens sont appelés au progrès. Vous savez, un petit enfant, vous avez déjà vu un petit enfant qui joue avec ses voitures, hein? Un petit enfant qui joue avec ses petites voitures en imaginant son monde, c'est chou, c'est normal, d'accord. Mais un adulte qui continue à jouer aux petites voitures en vivant dans son imagination, ne faisant pas face à la réalité, est une tragédie. Il est bien vivant, mais il n'est d'aucune utilité. Il est plutôt un poids pour les autres qu'il devrait aider. Ne regrettons donc jamais de ne plus être des enfants. Parce que les enfants n'ont pas la compétence de soutenir, d'aider, de transmettre, de comprendre, de donner la vie comme les adultes. Et dans la vie spirituelle, eh bien nous progressons comme dans la vie physique. Et Jean souligne que cela se fait par la parole de Dieu qui demeure en nous. Par la parole de Dieu qui demeure en nous. Et là, un premier effet, c'est de vaincre le malin. La parole de Dieu qui habite en nous a pour effet de vaincre le malin. Ce qui signifie que la connaissance de la vérité permet de faire face au mensonge. Hein. Le malin, c'est le menteur, prince du mensonge. Donc, la connaissance de la vérité, la parole qui demeure en nous, permet de faire face au mensonge et de l'écarter. Celui en qui la parole demeure est capable de comprendre ce qui vient du menteur et de s'écarter de ce que le monde propose. Celui en qui la parole demeure est capable de comprendre ce qui vient du menteur et de s'écarter de ce que le monde propose. Je donne quelques exemples. La parole de Dieu demeure en lui. Il discerne, par exemple, l'attaque féministe contre les familles traditionnelles. Et, puisque la parole demeure en lui, il vit la vérité d'un foyer équilibré, vécu dans l'amour et la soumission biblique qui se base sur le modèle divin. Ou encore, la parole de Dieu demeure en lui, il discerne la promotion active de la promiscuité sexuelle avec tout genre. Mais non, il est rempli de la parole. Donc il va vivre la vérité d'une sexualité uniquement vécue dans la relation qui se donne avec le mari ou la femme de l'alliance. Ou encore, la parole de Dieu demeure en lui, il discerne l'acceptation accrue de la violence. Vous avez sûrement vu, on accepte toujours plus de violence. Mais il ne l'accepte pas, il vit la justice et recherche la paix en suivant l'exemple de Christ. Parce que la parole habite en lui. Ou encore, la parole de Dieu demeure en lui, il discerne l'intérêt marqué pour le matérialisme et la recherche du plaisir. Étant, en demeurant dans la parole, eh bien, il vit dans l'intérêt marqué pour le royaume de Dieu. Ou encore, dernier exemple, la parole de Dieu demeurant en lui, il discerne le déclin constant de l'éthique dans le travail. Et la parole demeurant en lui, il vit selon le modèle biblique de la recherche du bien commun, soumis à ses supérieurs, étant soumis à ses supérieurs. Donc celui en qui la parole demeure est capable de comprendre ce qui vient du menteur et peut l'écarter et vivre selon la parole. Un autre progrès souligné par Jean est la connaissance de celui qui est dès le commencement. C'est dit deux fois de manière exacte pour les pères ici dans ce texte. Hein, connaître pour les pères, c'est pas seulement savoir qui est son papa. Non. Ce n'est pas seulement savoir qui est son papa, comme les jeunes enfants, mais c'est avoir vécu avec lui. Avoir vécu avec lui. Connaître ses qualités. Avoir expérimenté sa bonté. Hein, avoir expérimenté sa bonté. Expérimenté sa correction aimante. Sa bienveillance. Son exhortation pleine de vérité et de soin. C'est avoir une intimité avec lui qu'il n'est possible d'avoir qu'en connaissant vraiment la façon de penser et de vivre de l'autre. Voilà cette connaissance de celui qui était dès le commencement. Bien sûr, il était là dès le commencement, dès la naissance. Mais vivant avec lui, cherchant cette relation avec lui, cette connaissance s'approfondit. Et c'est de celle-ci que j'en parle ici. C'est cette intimité avec le Créateur rédempteur, ce Père parfait, sans aucune faute, qui motive et soutient notre croissance spirituelle. Vous savez, notre progression n'est pas chronologique, comme un escalier, hein, où une fois qu'une marche est passée, bon, c'est fait, on passe au suivant. Puis c'est acquis pour toujours. Non, c'est plutôt une randonnée qui traverse des paysages vallonnés ou même montagneux, montant, descendant, mais toujours allant de l'avant. C'est ça la croissance chrétienne. Et justement, concernant cette croissance, en préparant cette prédication, j'ai trouvé dans les écrits de John MacArthur des indications qui me semblent utiles à vous transmettre. Voilà pourquoi je prends un peu de temps pour parler de cette notion de croissance, afin de ne pas se tromper sur cette notion. Donc on va voir 6 fausses conceptions de croissance spirituelle. La première, c'est que la croissance spirituelle n'indique pas le statut de gracié du croyant devant Dieu. La croissance spirituelle n'indique pas le statut du gracié du croyant devant Dieu. Ça signifie que ce n'est pas la croissance qui sauve, c'est la naissance. Il est vrai que la croissance rassure et indique qu'il y a une naissance. Mais cela doit être clair. Si quelqu'un est un jeune converti ou si quelqu'un a une grande maturité chrétienne, ils sont tous les deux totalement et complètement sauvés. Car par l'œuvre, c'est par l'œuvre de Christ que nous sommes sauvés et pas par la croissance. Que vous soyez de jeunes gens ou des pères n'est pas déterminant pour le salut. C'est être enfant de Dieu qui est déterminant. Non, donc ça, c'est une première conception qu'il faut bien comprendre. Deuxième fausse conception, la croissance spirituelle n'affecte pas l'amour que Dieu porte aux croyants. La croissance spirituelle n'affecte pas l'amour que Dieu porte aux croyants. Dieu aime tous ses enfants parfaitement, au plus haut degré, à tel point qu'il a versé son sang pour chacun d'eux. Si dans une famille, le progrès de l'un encourage à l'aimer et la rébellion et la paresse de l'autre nous rend la tâche difficile d'aimer, Dieu n'a pas ce problème. Parce que son amour pour ses enfants ne puise pas ses forces dans le progrès de ses enfants ou dans leur maturité, mais dans son propre amour infini et indépendant des actes de ses enfants. Oui, Dieu peut être attristé, voire même souffrir de voir ses enfants faire de mauvais choix, s'entêter, de se faire du mal, car ils ne suivent pas sa parole. Mais cela ne change pas son amour pour eux. Et il l'a prouvé en donnant son Fils, alors même que nous étions encore pécheurs. La croissance spirituelle n'affecte pas l'amour que Dieu porte aux croyants. Troisième fausse conception, la croissance spirituelle ne se mesure pas selon un calendrier. La croissance spirituelle ne se mesure pas selon un calendrier. Cela signifie que ce n'est pas le nombre d'années depuis la nouvelle naissance qui détermine la maturité chrétienne, mais la profondeur de sa relation avec Dieu. Oui, c'est vrai, le temps passé à l'étude de la parole, sa mise en pratique patiente et persévérante, mène à la maturité et il est normal que ceux qui sont nés de nouveau depuis plus longtemps soient plus matures. Mais ce n'est malheureusement pas aussi souvent le cas que cela. Bien des chrétiens passent des années à ne pas devenir matures, mais à aimer le monde et à ainsi être bloqués dans sa croissance. Comme ces personnes atteintes d'une maladie qui, même à 30 ans, ont encore le comportement d'un enfant de 2 ans. Ils sont vivants, même depuis longtemps, mais ne croissent pas en maturité. D'autres, depuis peu d'années, sont dans la foi et sont ancrés dans la parole, vivant tout ce qu'ils comprennent et ayant une relation profonde avec Dieu. Non, la croissance spirituelle ne se mesure pas selon un calendrier. Quatrième fausse conception, la croissance spirituelle n'a rien à voir avec la quantité de connaissances théologiques que le croyant possède. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec la quantité de connaissances théologiques que le croyant possède. Et j'ai bien peur que pour plusieurs d'entre nous, le fait d'avoir beaucoup de connaissances freine sa croissance spirituelle. La croissance n'est possible que lorsque nous comprenons que ce que nous comprenons de la parole de Dieu doit être mis en pratique. Il n'y a pas d'écart entre ce que nous comprenons de la parole et ce que nous vivons. Dès que nous comprenons et que nous ne vivons pas ce que nous comprenons, nous nous écartons de la croissance. Nous savons parfois bien ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. Eh bien, cela bloque notre croissance, et nous restons des petits enfants. Sauvés, oui, mais inutiles pour le royaume de Dieu. Un enfant qui ne grandit pas ne peut pas lui-même se défendre, ni se nourrir, ni prendre des responsabilités. Il ne peut pas non plus engendrer d'autres enfants. Vous savez, certaines personnes ont très peu de connaissances théologiques et pourtant dépassent largement bien des personnes d'entre nous qui entendent des enseignements fidèles depuis des années. Parce qu'elles mettent en pratique ce qu'elles connaissent et s'y tiennent. Donc la croissance spirituelle n'a rien à voir avec la quantité de connaissances théologiques que les croyants possèdent. Il est vrai que celui qui a grandi en maturité a plus de connaissances théologiques. Mais ce n'est pas une corrélation. Cinquième élément, la croissance spirituelle n'a rien à voir avec le succès apparent dans un ministère. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le succès apparent dans un ministère. C'est Dieu qui œuvre. Et il peut agir avec des Moïse fidèles ou avec des Jonas rebelles. Jonas a eu plus de convertis qu'Ésaïe et Jérémie. Et pourtant, Ésaïe et Jérémie étaient d'une grande maturité spirituelle et dépassaient largement celle de Jonas. La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le succès apparent dans un ministère, puisque c'est Dieu qui agit. Et sixième élément, la croissance spirituelle n'est pas mystique, sentimentale ou psychologique. C'est pas ça la croissance spirituelle. Elle n'est ni mystique, sentimentale ou psychologique. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un qui dit « Oh, j'ai reconsacré ma vie à Dieu hein ». Et beaucoup pensent que c'est une croissance spirituelle. Ou quelqu'un qui vit un moment d'émotion intense dans des temps de louange dit « Je me sens toujours plus connecté à Dieu dans ces temps de louange » en pensant que c'est une croissance spirituelle. Ou encore quelqu'un rempli de pensées positives. Mais c'est dans l'épreuve que la croissance est rendue visible. Pas dans l'euphorie. C'est dans l'épreuve que la croissance est rendue visible. Pas dans l'euphorie. C'est lorsque l'on reçoit la nouvelle qu'on a un cancer, qu'on a raté un examen, ou que le sommeil ne vient pas, que la maturité spirituelle est rendue visible. C'est lorsqu'il faut faire face aux mensonges du monde qui cherche à nous tromper par ses tentations que nous pouvons voir si nous sommes passés par la croissance. Vous savez, la croissance physique, elle résulte en fait du fait que l'on mange. Si on ne mange pas, on ne grandit pas. Eh bien, la croissance spirituelle, il en est de même. Et la nourriture de notre être spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si on a parlé des mauvaises conceptions de la croissance spirituelle, sans aller dans toute la Bible, parce que là, ça nous prendrait quelques jours... J'aimerais seulement voir avec vous les quelques éléments qui sont au début de 1 Jean qu'on a déjà vu ensemble à propos de cette croissance. Et voici quelques éléments. Le premier, c'est que la croissance spirituelle, c'est toujours plus vivre à la lumière. Ça, c'est la croissance spirituelle. Toujours plus vivre à la lumière. Ou toujours moins dans les ténèbres, si vous voulez. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser pour voir si nous grandissons. Est-ce que je vis toujours plus à la lumière ? Ou est-ce que je cache sous prétexte que c'est privé? Deuxième élément qu'on voit dans 1 Jean. La croissance spirituelle, c'est toujours plus confesser ses péchés. Toujours plus confesser ses péchés. C'est vivre ce que j'appelle la repentance rapide. Attention, quand je dis repentance rapide, ce n'est pas une repentance bâclée. D'accord? C'est une repentance la plus proche possible du moment où le péché a été fait. Afin qu'il y ait le plus rapidement possible de la purification au lieu de la putréfaction. Est-ce que je confesse toujours plus mes péchés ou est-ce que je cherche plutôt à les minimiser ou à faire croire que j'en fais moins puisque je suis plus mature? Mais alors pourquoi Christ est-il mort à la croix? Uniquement pour me donner un ticket pour le ciel? Troisième élément qu'on a vu, la croissance spirituelle, c'est toujours plus garder les commandements de Dieu, donc sa parole. La croissance spirituelle, c'est toujours plus garder les commandements de Dieu, sa parole. Est-ce que je mets en pratique ce que je connais? Cherchez pas à mettre en pratique ce que vous connaissez pas. Pas besoin. Mettez en pratique ce que vous connaissez et tenez-vous-y. Est-ce que mon amour pour les frères et sœurs dans la foi est plus grand que par le passé? Impossible de croître spirituellement seul dans son coin, car alors nous sommes comme des braises éparpillées qui s'éteignent et se refroidissent rapidement. Et nous verrons tout à l'heure encore que la croissance spirituelle, c'est toujours moins aimer le monde. La croissance spirituelle, c'est toujours moins aimer le monde. Ainsi, le chrétien se réjouit d'être pardonné, se remplit de la parole qui demeure en lui et qui lui permet d'être fort et de vaincre le malin. Et il se délecte de la connaissance de celui qui est dès le commencement, en vivant le plus proche de lui possible par la repentance et la foi face à tout péché. Jean veut que les chrétiens soient rassurés. Ils sont nés de Dieu, ils ont la nourriture de Dieu, ils ont la présence de Dieu. Ayant rassuré ses auditeurs, Jean va maintenant leur donner un autre test, une autre exhortation qui va leur permettre de progresser et à nous aussi. Et c'est vrai qu'ici, je suis beaucoup redevable à John Piper pour ce deuxième point qui m'a bien inspiré, qui s'intitule « Le monde ou Dieu ». Le monde ou Dieu. Et nous allons relire les versets 15 à 17 de 1 Jean 2. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un texte qui commence avec un commandement. Il n'y en a qu'un dans ce texte d'ailleurs. C'est « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde ». C'est la seule chose qui est demandée dans ce texte. Et tout le reste l'explique. Et nous verrons donc quatre raisons de ne pas aimer le monde. Le premier élément explicatif dit ceci. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En fait, l'amour du monde écarte l'amour pour Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Ces deux amours s'excluent mutuellement et ne peuvent coexister en paix. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Écoutez bien ce qu'il dit. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, aimer le monde, si on prend le texte de Jésus, ça veut dire haïr Dieu. S'attacher au monde, selon ce texte de Jésus, mène à mépriser Dieu. C'est la première raison de ne pas aimer le monde. Impossible d'aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Voilà, c'est pas bien compliqué. C'est impossible. Pourquoi ? Continuons, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Autrement dit, tout ce qui est dans le monde, qui est décrit ici dans ce verset, ne vient pas de Dieu. Et aimer ce qui ne vient pas de Dieu, c'est ne pas aimer Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous aimons ce qui n'est pas de lui. C'est donc la deuxième raison de ne pas aimer le monde. Aimer le monde, c'est aimer ce qui ne vient pas de Dieu. Aimer le monde, c'est aimer ce qui ne vient pas de Dieu. Continuons dans le texte. Une raison de plus est donnée. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais personne n'investirait dans une entreprise qui est certaine de faire faillite. Personne ne va passer des vacances sur un bateau qui est en train de couler. Personne ne va stocker pour l'hiver ses bons fruits et légumes dans le compost. N'essayez pas. Ou avec un fruit. Personne ne va mettre son argent où il peut être détruit et volé. Et pourtant, c'est ce que font ceux qui aiment le monde. Et qui, comme Jésus le dit, le monde qui passe dans Matthieu 6, 14, le monde qui passe... Et qui donnent leur temps, leurs dons, leurs capacités, leur énergie, leur trésor, si vous voulez, ou leurs légumes et leurs fruits. C'est la troisième raison de ne pas aimer le monde. Aimer le monde, c'est mettre son trésor dans quelque chose qui disparaît. Aimer le monde, c'est mettre son trésor dans quelque chose qui disparaît. C'est comme ce jeune homme dont j'ai lu l'histoire pendant les vacances, qui avait confié sa fortune à quelqu'un qui a totalement dépensé toute sa fortune sans rien lui dire. C'est comme mettre son argent dans la poche percée de son pantalon. Si Jean a bien expliqué pourquoi ne pas aimer le monde, il donne ici aussi l'antidote. C'est la fin de notre passage. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'opposé d'aimer le monde, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu, selon 1 Jean 5,3, c'est garder ses commandements. Donc la quatrième raison de ne pas aimer le monde, c'est que aimer le monde, c'est ne pas garder les commandements de Dieu. Aimer le monde, c'est ne pas garder les commandements de Dieu. Et on peut dire que si l'on aime Dieu sans aimer ce qu'il aime, c'est incohérent. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer ce qu'il aime. Est-ce que Tom peut être un grand ami avec Joe si l'un aime la violence et l'autre la paix? L'un aime l'horreur et l'autre l'harmonie. L'un aime la rébellion et l'autre la justice. L'un aime la luxure et l'autre la pureté. L'un aime se moquer de Dieu et l'autre la piété. Mais celui qui aime la paix, l'harmonie, la justice, la piété et la pureté n'aura aucune place dans les activités ou même les descriptions d'activités aimées par l'autre qui remplissent sa vie. Et vous avez peut-être déjà fait l'expérience. Mais c'est jamais la pomme saine qui change les pommes pourries. Il faudrait un changement de nature. Dire aimer Dieu sans aimer garder ses commandements, c'est comme dire que Tom et Joe sont des grands amis alors qu'ils n'ont rien du tout en commun. Pour être encore plus clair, ça c'est violent ce que je vais dire là, mais ça soit bien clair. Aimer Dieu sans garder ses commandements, c'est comme dire que le diable est l'ami de Jésus-Christ. C'est impossible. Le commandement de ce deuxième point est donc « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde ». Et les quatre raisons que nous avons vues, impossible d'aimer le monde et d'aimer Dieu en même temps. Aimer le monde, c'est aimer ce qui ne vient pas de Dieu. Troisièmement, aimer le monde, c'est mettre son trésor dans quelque chose qui disparaît. Et quatrièmement, aimer le monde, c'est ne pas garder les commandements de Dieu. Et j'aimerais prendre quelques instants maintenant avec vous pour faire le lien de tout ceci avec le salut. Et ensuite, nous terminerons en voyant comment mettre cela en pratique. Le lien entre la foi et l'amour. Tous les lecteurs de la Bible savent qu'il est écrit en Actes 16, les versets 30 à 32. Oh, bon, on peut aller le chercher si on n'a pas par cœur. Ben, allez-y, on va regarder ensemble. Actes 16. Souvenez peut-être que c'est quand Paul est à Philippe. Actes 16, 30, quand les gens lui disent « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Crois. Ça, on le sait. Mais est-ce que tous les lecteurs de la Bible sont conscients ce que signifie croire? Ce que cela implique? Est-ce qu'il est possible de croire, d'avoir totalement confiance en quelqu'un sans l'aimer? Jésus est assez clair par rapport à cela dans sa discussion avec les Juifs qui s'opposait à lui. Il leur dit dans Jean 5, 42, « Mais vous, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » C'est clair. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Continue, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si il nous devient en son propre nom, vous le recevez. » Il continue, « Comment pouvez-vous croire ?» Il n'y a pas l'amour de Dieu. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Croire, c'est aimer. Jésus fait également clairement le lien entre croire et aimer dans Jean 3, 16 à 21 qu'on a lu tout à l'heure. En verset 16, celui qui croit à la vie éternelle, c'est connu. Au verset 19 et 20, celui qui aime les ténèbres est jugé. Et le verset 21 souligne que croire, c'est mettre la vérité, donc la parole de Dieu, en pratique. Et on a vu que mettre la parole de Dieu en pratique, ou suivre ses commandements, c'est aimer Dieu. Nous pouvons donc dire que croire fait partie d'aimer. Croire fait partie d'aimer, et aimer, c'est croire. Ainsi, c'est en aimant Dieu et non le monde que l'on est sauvé. En aimant Dieu et non le monde que l'on est sauvé. Aimer Dieu, c'est le servir par amour. Et il y a une histoire qui est assez forte dans la parole, si on y réfléchit un peu, l'histoire de Jacob, qui a vécu et qui a servi pendant 7 ans par amour. Il aimait tellement Rachel qu'il a pu servir, il a subi toutes sortes de choses, mais pour lui c'était par amour. Et c'est ça l'amour quand on sert Dieu. C'est cet amour-là. Aimer Dieu et nous débarrasser de l'amour du monde n'est pas une option. C'est un ingrédient essentiel au salut et à la vie chrétienne. Et le plus grand commandement, d'ailleurs, est, vous connaissez le plus grand commandement? Jésus l'a dit dans Matthieu 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras Si vous n'avez pas ou que vous ressentez peu d'amour pour Dieu, il ne peut y avoir que deux raisons. Et la réaction d'ailleurs sera la même. Première raison, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes peut-être ce qu'on appelle un chrétien culturel ou héréditaire. Je peux que vous encourager si vous êtes dans cette situation-là, qu'il n'y a rien pour Dieu. Mais moi, je peux le dire, mais je ne le vis pas, parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est que vous qui pouvez le voir. Eh bien, je peux que vous encourager à reconnaître qui est Dieu, à demander pardon pour votre rébellion contre lui et toutes vos fautes, et croire que Jésus le roi a payé pour vous. Vous l'avez déjà entendu. Mais moi, je prie que l'Esprit l'applique dans les cœurs. Ça, c'est une raison, si vous ne ressentez que peu d'amour pour Dieu. Une deuxième raison, c'est que vous êtes refroidi et faible. Vous vous souvenez d'avoir eu l'amour pour Dieu, et qu'à ce moment-là, rien dans le monde ne pouvait vous donner ce que Dieu vous donnait. Et s'il fait froid dans votre cœur, eh bien, allumez le feu de la repentance et de la foi. Ne laissez aucun glaçon de péché non confessé dans les ténèbres de vos secrets. Venez à la lumière du soleil réchauffant de la grâce. Votre repentance exprimée chassera les nuages épais qui vous empêchent de voir et ressentir les effets du soleil. C'est extrêmement souvent la situation quand on a, quelque part, comme on dit, perdu ce lien avec Dieu depuis un certain temps d'ailleurs. C'est qu'il n'y a pas la repentance et la foi. Que Dieu nous guide. Et s'il vous montre un péché qui est là, ne cherchez pas à l'excuser. Repentez-vous clairement. Il est mort pour ça. Il n'est pas juste mort pour nous donner un ticket pour le ciel. Il est mort pour que dans tous nos cheminements, nous puissions venir à lui, être purifiés et retrouver cette relation. Je l'ai vécu tant de fois, j'aimerais ne plus le vivre, pas j'aimerais plus pécher, mais je l'ai vécu tant de fois, quand on confesse son péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. On l'a vu ensemble, c'est une réalité, c'est pas juste une théorie. Je vous ai dit, il y a la théorie de ce qu'on connaît, il y a la réalité, et ça doit aller ensemble. C'est ainsi que nous pourrons croître. L'amour pour Dieu est complètement lié à la foi qui sauve. Il est impossible d'aimer Dieu et le monde. Mais alors comment le vivre? C'est une question qui est déjà là depuis un moment dans votre tête. Mais comment le vivre? Et ça sera notre conclusion. Le verset 16 décrit le monde à ne pas aimer. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La convoitise, c'est le désir de ce que l'on n'a pas. Et l'orgueil de la vie, c'est l'orgueil de ce que l'on a. Et le monde est dirigé par ces deux choses. La passion pour les plaisirs, qu'on court toujours après, et l'orgueil de posséder. Ça peut être du bien, ça peut être du pouvoir, ça peut être ce que vous voudrez. C'est ce que nous aimons qui nous rend fiers, qui nous pousse à l'action. C'est vers ce que nous aimons que nos désirs nous poussent. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, ben regardez juste ce que vous avez envie. Vos désirs. Mais alors, me diront certains, est-ce que je dois désirer manger? C'est pas du monde, ça. Ou avoir même un travail? Ou désirer une épouse, ou désirer donner naissance à un enfant, ou désirer avoir la santé, ou désirer avoir une maison, ou désirer avoir un diplôme, désirer avoir un bon sommeil, désirer des moments détente entre amis. Est-ce qu'il est juste de désirer tout cela? La réponse va peut-être vous surprendre. Mais la réponse est non, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Désirons-nous manger pour la gloire de Dieu? Désirons-nous un travail parce que nous faisons, parce que nous faisons, nous allons découvrir Dieu et son amour pour nous? Est-ce que nous désirons un conjoint parce que nous voyons en lui Dieu, que nous pouvons aimer? Désirons-nous un enfant pour rendre gloire à Dieu, pour le préparer à le servir et vivre pour lui? Désirons-nous la santé pour y voir la bonté de Dieu et la mettre à son service? Désirons-nous une maison pour y vivre l'amour de Dieu en l'utilisant de façon à ce qu'il soit fier de nous? Désirons-nous un diplôme pour développer les capacités qu'il nous a données pour les mettre à son service par amour pour lui? Avons-nous le désir que tout ce que nous vivons soit une marque d'amour envers Dieu. Ainsi, petits enfants, jeunes gens, pères, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais si l'amour du Père est en nous, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, alors à chaque endroit où nous allons, ce sera un temple d'amour pour Dieu. Tout notre travail sera une offrande d'amour pour Dieu. Chaque repas sera un banquet d'amour pour Dieu. Chaque enfant qui nous est confié sera un joyau d'amour pour Dieu. Chaque diplôme que nous recevrons sera un outil supplémentaire pour aimer Dieu. Et chaque chant même que nous pourrions chanter devient un pavé du chemin de l'amour pour Dieu. Et nous dirons ensuite, qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi? Je n'ai aucun plaisir sur la terre. Tu es celui qui pardonne, qui équipe par ta parole et qui se tient près de moi. Ça, c'est la première partie de ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu es celui qui pardonne, qui équipe par ta parole et qui se tient près de moi. Tu me rassures, tu m'encourages. Je veux t'aimer et me distancer du monde. Je veux t'aimer et me distancer du monde. C'est la deuxième partie de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je désire que ce que je viens de dire là, nous puissions tous le dire de tout notre cœur. Tu es celui qui me pardonne, qui m'équipe par ta parole, qui se tient près de moi. Tu me rassures, tu m'encourages. Je veux t'aimer et me distancer du monde. À notre Dieu que nous aimons, soit toute la gloire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, en réfléchissant à cette belle image des enfants, je suis émerveillé de voir que c'est toi qui donnes la naissance, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui nous donnes la croissance. Et j'aimerais te remercier pour la parole que tu nous donnes, que nous pouvons prendre, et tu nous fais ainsi participer à cette croissance. Sois loué, sois béni. Merci parce que tu ne nous demandes pas des choses que tu ne nous donnes pas. Tu ne nous demandes pas des choses en t'éloignant de nous. Et j'aimerais te prier que nous puissions être remplis de ta parole, que nous puissions avoir une réelle connaissance de toi, une intimité avec toi. Et qu'ainsi, nous soyons remplis de toi de manière à ce que, s'il y a des éléments du monde, eh bien, nous puissions clairement nous en détourner. Parce que nous sommes clairement conscients que cela n'est pas selon toi. Seigneur, tu as créé le monde, tu as donné des choses bonnes que nous pouvons utiliser et nous te remercions pour cela. Mais nous te prions, Seigneur, de ne jamais entrer dans cette relation, dans ce lien avec le royaume des ténèbres, avec le royaume du prince de ce monde qui est contre toi. Permets qu'aucune bonne chose ne devienne une idole pour nous et que nous puissions, Seigneur, être ceux qui te disent « Je t'aime et je veux t'aimer davantage ». Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.